Bonjour.
Jusqu'à 1h du matin, hier soir, j'étais assez fier de mon titre. Mais j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, j'étais sur Google. Et sur Google, j'ai vu qu'il y avait une exposition qui a ouvert la semaine dernière à l'université de Cornell dans l'état de New York et qui s'appelle Anarchy in the Archives. On ne s'était pas coordonné avec eux, donc voilà. C'est justement un titre un peu provocateur, absolument voulu, puisque effectivement les archives et le punk, c'est un peu antithétique, voire opposé. Alors l'arrivée du projet, bon, c'est vrai qu'au ministère de la Culture, quand j'ai reçu un mail de Solveig me disant « Est-ce que vous avez des archives sur le mouvement punk ?», ça a un peu défrisé, puisque évidemment on n'est pas tellement habitué à recevoir ce genre de demande. Mais, comme le disait M. Legnaud, par rapport au thème du colloque, à savoir 40 ans d'histoire, c'est vrai qu'on peut se poser la question des sources. Et cette question des sources, elle est essentielle, puisque c'est à partir des sources qu'on va pouvoir créer l'histoire. Et on dit souvent qu'il n'y a pas d'histoire sans archives. Cela dit, on est face à un mouvement qui, par ses fondements idéologiques, a tendance à également repousser la question du futur, la question de la patrimonialisation, la question de la conservation. Et donc, les archives du punk, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, mon équipe n'était pas si surprise que ça, parce que souvent, à partir de 18h, ils entendent du métal urbain et des Dead Kennedys qui sortent de mon bureau. Donc, on va dire qu'ils ont trouvé ça plutôt intéressant. Et vous le verrez, on a commencé à fouiller ensemble ce qu'on pouvait trouver sur ces archives. Et on va dire que l'archiviste a tendance un peu à considérer le punk avec une méfiance initiale, puisqu'on en a parlé hier. Le punk, c'est le do-it-yourself, c'est également le cut-up. Alors le cut-up, c'est la destruction d'archives pour créer des supports de communication. Donc en fait, un archiviste qui s'intéresse au punk, c'est un peu comme un poulet qui serait commercial chez Kentucky Fried Chicken. On peut se dire qu'il s'engage dans une voie qui ne va pas forcément être particulièrement pérenne pour lui. Alors, pour commencer, je pense qu'il est, important de parler déjà du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture, c'est une institution administrative et dont le but initial, celui voulu par Malraux, était la démocratisation de la culture. Or, une fois qu'une partie de ces objectifs ont été remplis, à savoir l'ouverture de maisons de la culture, etc., on voit que ce ministère a tendance à se nourrir des marges et à se nourrir des nouveaux mouvements pour les digérer et finalement pouvoir se les approprier et communiquer autour de ces mouvements. On l'a vu avec la multiplication des événementiels type technoparade et j'en passe. Et on peut se dire, est-ce que le ministère de la Culture s'est intéressé au punk? D'abord, il est important de voir les différences entre les fondements idéologiques du punk et les fondements de l'archivistique. Alors évidemment, hier on a beaucoup parlé de nihilisme, on a parlé d'anarchisme, l'antirationalisme, l'antimatérialisme aussi, et puis l'absence totale de contraintes pour le nihilisme. Quant à l'anarchisme, absence totale de principes directeurs, d'autorité, le refus de l'ordre. Bon, l'archiviste, lui, il se base essentiellement sur des normes, des cadres, des plans de classement qui sont hiérarchisés, donc on a tendance à vouloir mettre de l'ordre là où il n'y en a pas. Donc évidemment, l'archiviste, a priori, il n'est ni nihiliste, ni anarchiste, et donc pas vraiment punk. Cela dit, un punk archiviste, ça peut exister. Je prends la définition de l'anarchiviste dans le dictionnaire des mots valises de Créange. C'est donc le spécialiste qui conserverait des documents historiques en s'assurant par un classement chaotique à l'extrême que personne ne se risquerait à les consulter. Alors, évidemment, bon, si moi je m'amusais à faire ça dans mes fonctions, ça serait un petit peu compliqué pour justifier la poursuite de mon activité et le fait que je puisse manger à la fin du mois. Mais cela dit, je trouve que ça a quelque chose de séduisant. Alors, d'autant que, on le voyait, M. Legnaud l'a rappelé, les archives sont quelque chose de très large. Je dirais même que les archives, c'est un peu tout. Tout ce que vous êtes en train de prendre en note en ce moment, vous créez des archives, et ce sera des archives du punk. Donc si on prend la définition du code du patrimoine, code du patrimoine, hein, déjà un code, le patrimoine, donc ce qui vient des pères, hein, c'est pas très punk dans l'esprit, et donc ces archives, c'est l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité. Donc autant dire que les archives, c'est tout. On a parlé de la variété des supports, on a parlé de la variété des producteurs, que ce soit les festivals à le festival de Mont-de-Marsan, que ce soit les archives municipales, que ce soit des archives de fans qui ont accumulé des archives, des photos, etc. Tout ça représente un champ archivistique qui est largement à défricher et à explorer. Alors, voilà. Quelques exemples de documents qu'on peut avoir. Alors, des documents évidemment imprimés, mais j'y reviendrai. Ça pose des questions de conservation, puisque là, on a un exemple de flyer d'un petit festival, un festival local. On va également avoir évidemment des supports de communication type affiches, avec parfois ce qu'on. Des mentions marginales, manuscrites, qui peuvent renseigner sur le discours qui était tenu par les groupes eux-mêmes. Et puis, ce qu'on connaît un peu plus, c'est des photos, soit de concerts, soit de groupes, soit évidemment des œuvres même graphiques, comme celles qu'on a ici. Enfin, des supports... Tels que les disques, tels que les bandes magnétiques, qui posent toutes des problèmes spécifiques de conservation. Et si on veut écrire l'histoire, l'idée, c'est quand même de pouvoir conserver ses sources. Alors là, on a aussi ce que disait M. Legnaud, hein, les fanzines, avec une production qui a été extrêmement large et diffusée, mais aussi extrêmement mal conservée. Alors bon, comme archiviste... institutionnel, comme conservateur, hein, c'est déjà un terme un peu particulier pour le punk, surtout si on rajoute chef et patrimoine derrière, je me suis intéressé aux sources institutionnelles. Les sources institutionnelles concernant le punk, eh bien, elles sont nulles au ministère de la Culture. C'est-à-dire que quand Solveig et Luc sont venus me voir, j'ai tout de suite été voir ce qu'on pouvait avoir, nous, dans les fonds du ministère, on a 10 km d'archives dans notre service qui correspondent en gros à la production de toute l'institution, donc toutes les directions générales, notamment celle sur laquelle je pensais qu'on pouvait retrouver des choses, qui était la direction générale de la création artistique. Eh bien, je n'ai absolument rien retrouvé. J'ai, en revanche, trouvé une seule référence dans la salle des inventaires virtuels des archives nationales. Et je l'ai retrouvée, évidemment, dans le fond du ministère de l'Intérieur. Et c'est la direction des CRS. Hein, donc c'est, voilà. Et c'est un dossier qui concerne un rapport de synthèse sur un concert de punk en 87. Alors, je ne l'ai pas encore consulté. Je ne sais pas de quel concert il s'agit. Mais en tout cas, c'est assez amusant quand vous faites la recherche sur la salle des inventaires virtuels de voir que le punk est complètement absent. De la même manière, hier, on a eu des projections d'images de l'INAD, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est chargé du dépôt légal de l'audiovisuel pour la France. On a eu donc le journal de Gérard Rolls, etc. Je ne reviens pas dessus. Cela dit, une recherche sur le site de l'INA donne assez peu de résultats. On a 138 références, hein, si vous tapez punk. Et dans ces références, vous aurez évidemment les Daft Punk, donc des choses qui ne sont pas forcément dans le champ de notre étude. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de tri à faire. Donc, on voit finalement une pauvreté assez manifeste des sources. Alors, vous avez ici l'exemple de l'instrument de recherche sur le ministère de l'Intérieur concernant le fameux concert. Alors il y a un autre souci, puisque quand on commence à s'intéresser évidemment aux sources institutionnelles et qu'on voit qu'elles n'existent pas, on va s'intéresser aux autres types de sources. Et la première chose qu'on voit, c'est que ce sont des sources qui sont extrêmement fragiles et qui posent des problématiques de conservation extrêmement importantes aussi. D'abord, il y a un vieillissement des acteurs du mouvement. On le voit, c'est un mouvement qui maintenant a 40 ans, donc il y a déjà des acteurs qui ne sont plus là, d'autres qui ne le seront peut-être bientôt plus, hein, le plus tard possible pour eux, mais voilà. Donc ça, c'est le premier point. On a ensuite énormément de sources éphémères qui, comme je le disais, servaient pour des actions de communication et des événements qui étaient par définition éphémères, donc des flyers, des affiches, des fanzines, et puis également des sources qui ont pu disparaître. On parlait des bandes magnétiques, hein, les radios libres notamment. Il y a très peu de conservation, en tout cas de ce que j'ai pu déjà voir, de ce type de bandes. Alors ces sources, elles sont éphémères de manière aussi peut-être volontaire. On parlait du No Future hier. On a aussi à l'esprit que le punk ne se projette pas forcément dans l'avenir. D'autre part, je parlais de la fragilité des supports. Les supports papier étaient souvent de mauvaise qualité. Le do-it-yourself, hein, on fait souvent avec les moyens du bord. Donc, ces papiers de mauvaise qualité, la plupart du temps, ils sont extrêmement acides. Donc, on ne va pas pouvoir les conserver sur le long terme. On verra qu'il y a peut-être des solutions envisagées. Et puis, il y a également des supports de mauvaise qualité en raison aussi des moyens dont dispose le mouvement, hein, si on peut parler d'un mouvement uni, notamment les CD. On sait aujourd'hui qu'un CD, par exemple, c'est une durée de vie moyenne de 10 ans. Donc, toutes les petites productions de petits groupes qui gravent eux-mêmes leurs CD, d'ici quelques temps, on ne pourra plus les lire. C'est un point assez important. Donc, le mouvement qui est anti-mémoire et anti-histoire et anti-patrimonialisation, finalement, il va quand même à l'encontre de la conservation mémorielle, et à cela s'ajoutent donc des problèmes de conservation matérielle. Alors, on pourrait se dire qu'il y a effectivement des sources imprimées. Alors, on a des sources imprimées, mais le cadre législatif n'oblige pas, puisqu'on est dans le cadre, encore une fois, du do-it-yourself, de versement. Donc il n'y a pas de dépôt légal des fanzines du punk à la Bibliothèque nationale ou dans les bibliothèques chargées du dépôt légal imprimeur et qui se trouvent sur tout le territoire. Alors cette non-obligation et cette diffusion en dehors des circuits traditionnels n'empêche pas, évidemment, qu'on puisse retrouver des petites choses. Hein. Une recherche sur le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France montre quand même qu'on a un certain nombre de réponses, mais essentiellement des sources imprimées de la littérature spécialisée sur le sujet. Très peu de fanzines, encore une fois, et c'est des sources primaires qui permettraient quand même d'y voir un peu plus clair pour écrire une histoire du mouvement. Alors, en deux minutes, il y a eu tout de même des initiatives privées et qui restent assez limitées. Donc, de nombreux sites, notamment anglo-saxons, hein, je parlais tout à l'heure de Cornell, qui a créé un dépôt d'archives du punk avec des supports variés, à la fois audiovisuels, sonores, papier. Pas mal également de sites, hein, comme The Punk Archives, pardon, The Mod Punk Archives, The Punk Rock Archives, LSC Punk Archives, ça c'est à l'Université de Los Angeles. Mais malheureusement, il n'y a pas de politique de pérennisation de ces données, des formats, de descriptions. Donc ces sources-là, elles demandent un grand travail de recherche pour un historien qui s'intéresserait au sujet. De la même manière, souvent, on se rend compte que... alors vous avez ici une capture d'écran, justement, du site UCLA. On se rend compte aussi que les sites ne sont pas maintenus, reposent sur des initiatives individuelles. Voilà ce qu'on cherche, quand on cherche certains sites. Hein. Erreur de maintenance, les sites ont disparu. Ça veut dire que le contenu n'est plus accessible non plus. Donc, on est quand même face à une urgence patrimoniale sur lesquelles on peut s'attarder en quelques pistes. D'abord, ce qui pourrait être une solution, en plus d'initiatives privées, donc je pense que Montaigu, on en reparlera, les fanzinothèques aussi qui existent, mais il pourrait y avoir une collecte de ces archives, à la fois chez les acteurs du mouvement, ce qu'ils conservent, et puis une création aussi peut-être d'archives orales pour préserver la mémoire de cette première période du punk. Envisager des dépôts, M. Lenu en parlait, où ça, auprès de grandes institutions, Archives nationales, Bibliothèque nationale, mais aussi Archives départementales ou des centres de conservation régionaux. Mettre en place des méthodes rationnelles de classement, c'est des choses qu'on a un peu l'habitude de faire, nous, notamment en lien avec les comités d'histoire et le comité d'histoire du ministère de la Culture, sur d'autres types de sujets, comme les grands travaux présidentiels dans le domaine de la culture ou l'histoire de la pédagogie, etc., et avec l'École des chartes, évidemment, aussi. Et puis, la création d'un portail de ressources qui permettrait d'avoir un référentiel assez aisé à consulter. Alors, en conclusion, j'avais prévu une citation de Métal Urbain, hein, E202, donc je trouvais que c'était plutôt bienvenu pour un conservateur, où on voit à peu près l'image que peuvent se faire certains punks du musée et du patrimoine. Mais hier soir, à 1h du matin aussi, en regardant Google, à croire que j'avais rien de mieux à faire, j'aurais été mieux sur scène à chanter avec les autres, je suis tombé sur un article sur les 40 ans du punk à Londres, qui sont en train d'être fêtés. C'est un article qui date d'hier. Et c'est le fils de Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, qui, lors des célébrations des 40 ans du punk, a dit que finalement le punk était mort et il a décidé de brûler, on parlait d'auto-da-fé tout à l'heure, de brûler les souvenirs de son père et de brûler les souvenirs donc liés à toute la mouvance punk de la fin des années 70. Donc la conclusion de la conclusion, qui remplace la conclusion initiale, c'est qu'on est face à une mémoire qui est fragile. Si on ne veut pas que le punk soit effectivement mort, ou en tout cas qu'on en garde la trace, je pense qu'il est important de se pencher rapidement sur la question et d'avoir des initiatives que j'espère pouvoir participer, notamment avec Pind. Et je remercie Solveig, Luc, d'avoir fait appel à moi dans ce cadre-là. Merci.